J'ai commencé à travailler sur le phénomène de la pauvreté vu sous l'angle des relations d'interdépendance et des liens entre les pauvres et le reste de la société, ceux que l'on appelle les pauvres et le reste de la société. Et ensuite, j'ai travaillé beaucoup sur la question de la précarité, notamment dans le monde du travail. J'ai fait aussi beaucoup de comparaisons internationales qui m'ont conduit à écrire un livre qui s'appelle « Les formes élémentaires de la pauvreté ». Et de fil en aiguille, j'ai travaillé de plus en plus sur la question des liens, des différents types de liens, des formes d'attachement. Et c'est l'objet de mes recherches aujourd'hui à l'École des hautes études en sciences sociales. La chaire que j'anime s'intitule « Sociologie des inégalités et des ruptures sociales ».
Vous avez soutenu votre thèse à l'EHESS sur la disqualification sociale. C'est un concept que vous avez vous-même élaboré. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce processus ?
Tout d'abord, cette recherche s'inscrit dans un contexte particulier qui était celui des années 80. Lorsque l'on parlait de la pauvreté dans ces années, c'était parce qu'on se rendait compte que la société salariale qui a été constituée tout au long du XXe siècle et en particulier pendant la période des Trente Glorieuses montrait ses limites. On voyait de plus en plus de personnes qui s'adressaient aux services d'action sociale après avoir, pour certaines, travaillé de façon dans le monde du salariat et avoir finalement épuisé leurs droits aux allocations chômage et se retrouver sans rien. Et il y avait aussi des jeunes notamment qui n'arrivaient pas à rentrer dans ce monde du travail et qui se retrouvaient dans la même situation. Donc ce sont toutes ces personnes en situation de pauvreté et de précarité qui constituaient une nouveauté en France parce que effectivement la société n'était pas prête pour justement prendre en charge ce phénomène nouveau que l'on a qualifié ainsi. Et ce qui m'a intéressé, c'était d'étudier justement ce que représentait pour la société tout entière ce phénomène. Donc j'ai fait la sociologie de ce nouveau phénomène et pour cela j'ai étudié les représentations, la transformation des représentations que l'on pouvait avoir de ce phénomène, et j'ai aussi fait une enquête sur le terrain pour analyser les expériences vécues des personnes désignées comme pauvres et contraintes de solliciter les services d'action sociale pour vivre au quotidien. Et cela m'a conduit à mettre l'accent sur l'expérience qui est une expérience de disqualification sociale. Et ce concept, je l'ai construit, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je l'ai construit comme finalement l'expression d'un processus qui comporte plusieurs phases. La phase de la fragilité, la phase de l'assistance proprement dite et enfin la phase de la rupture des liens sociaux. Et en interrogeant donc et en rencontrant des personnes qui étaient concernées par justement cette épreuve, j'ai progressivement élaboré ce concept et encore aujourd'hui, ce concept peut être tout à fait utile à la compréhension de ce phénomène qui renvoie à la rupture progressive des liens sociaux.
Vous l'avez dit, cette thèse, elle était dans un contexte particulier de fin des années 80. Aujourd'hui, est-ce que ce concept prend davantage sens ou peut-être moins, parce qu'on s'y habitue à ce processus, avec la conjoncture économique et sociale actuelle en France ?
Je dirais que le phénomène de la disqualification sociale s'est amplifié. S'est amplifié du fait que la société salariale s'est dégradé de plus en plus jusqu'à aujourd'hui et aujourd'hui même en raison de l'importance du chômage beaucoup d'acteurs, beaucoup de responsables politiques considèrent qu'il faut justement démanteler encore davantage cette société salariale pour la rendre plus flexible. Ce sont les politiques néolibérales qui accompagnent tout ce processus et qui conduisent finalement à ce que des personnes de plus en plus nombreuses se retrouvent finalement démunies de supports relationnels et en même temps avec le sentiment de ne compter pour personne, de ne pas avoir de valeur, d'être en quelque sorte inutile. Et c'est ce processus de disqualification sociale que j'ai observé dans les années 80 qui, de mon point de vue, n'a fait que s'aggraver depuis.
Vous avez soutenu votre thèse, donc on l'a dit, en 88. Naturellement, les études sociologiques sont amenées à évoluer avec le changement social, mais particulièrement dans votre domaine, quelles évolutions notables, au-delà de la disqualification sociale, avez-vous pu remarquer en France quant à la précarité, la solidarité et les inégalités ?
Ce que j'ai observé au cours de ces 30 dernières années, c'est aussi une transformation du regard porté sur les pauvres. Dans les années 80 et dans les années 90, on est dans deux décennies, on se trouve dans deux décennies qui vont essayer justement, au cours de, dans lesquelles on va essayer de remédier, de trouver des solutions à cette crise de la société salariale. On va notamment croire beaucoup à cette notion d'insertion et on va développer, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, de nombreuses actions en faisant appel à la société civile pour justement aider ces personnes, les accompagner, les insérer le mieux qu'on peut pour éviter ce naufrage social catastrophique que l'on est en train de vivre. Et pendant 20 ans, en France, il y a eu un consensus très fort sur justement cette nécessité de venir en aide de cette façon, en mobilisant beaucoup les associations, en créant une sorte d'humanité à la périphérie du monde du travail pour éviter ce naufrage. Et ce que je remarque, c'est qu'à partir de la première décennie du 21e siècle, on a changé en quelque sorte les représentations. Les représentations à l'égard des pauvres ont évolué et de plus en plus, on a insisté sur justement la limite de toutes ces opérations, de toutes ces politiques d'insertion, à tel point que on a de plus en plus insisté sur la logique de l'assistanat. Tout ça, ça conduit finalement à de l'assistanat. Toute cette énergie que l'on dépense n'est pas efficace d'un point de vue économique. Donc c'est en quelque sorte la remise en question de toute cette énergie qui a été déployée pendant 20 ans qui se trouve en quelque sorte dévalorisée, critiquée. Et en même temps, le travail social qui a été réalisé pendant toute cette période est en grande partie remis en question pour ces raisons. Et donc depuis, l'élection présidentielle de 2007, la notion de mérite, par exemple, est devenue très très importante. Elle a été soutenue par le candidat qui a gagné l'élection présidentielle, Nicolas Sarkozy. Et donc on a beaucoup insister sur la responsabilité individuelle au détriment de la responsabilité sociale. Et on a commencé à se dire qu'il fallait intervenir autrement et peut-être abandonner cette idée d'insertion qui ne débouche pas sur de véritables emplois. Donc c'est tout ce processus que j'observe et qui conduit finalement aujourd'hui à une attitude beaucoup plus sévère et exigeante à l'égard des pauvres, alors même que le processus de disqualification sociale continue à se déployer dans la société française et dans d'autres sociétés aussi dans le monde. Et finalement, on en arrive à une attitude qui consiste à culpabiliser davantage les pauvres et les chômeurs, de ne pas faire suffisamment d'efforts pour s'en sortir par eux-mêmes, de profiter, parce qu'on en parle parfois comme des profiteurs de toutes ces mesures sociales, si bien que le consensus qui existait dans les années 80 au moment du vote de la loi sur le RMI s'est complètement défait. Aujourd'hui, si on devait faire un sondage sur la nécessité d'aider les pauvres, il n'y aurait absolument pas les résultats que l'on avait quand on faisait les mêmes sondages avant de mettre en place le RMI. Avant de mettre en place le RMI, en 1988, 9 Français sur 10 étaient favorables à une politique sociale, une politique de lutte contre la pauvreté, était favorable à cette idée aussi que c'était à la nation tout entière, à travers la force que représente la société civile, d'intervenir pour justement remédier à ce fléau, à cette question sociale qui hantait les esprits à l'époque. Or, aujourd'hui, on n'a plus du tout ce consensus-là, il s'est effrité. Et c'est ça qui, moi, me me surprend beaucoup parce que je pensais effectivement que les énergies qui ont été déployées pendant les années 80 et 90 constituaient en quelque sorte la caractéristique de la société française si on la comparait par exemple à la société anglaise qui a traditionnellement été beaucoup plus sévère à l'égard des pauvres, qui a tout le temps culpabilisé davantage les pauvres, responsabilisé davantage individuellement les pauvres, alors que je m'aperçois que finalement ce que je pensais constituer un socle indestructible de la société française par rapport à la question de la pauvreté, en fait, a fini par ce socle a fini par céder. Et donc, on a en quelque sorte aujourd'hui une politique qui est délibérément plus hostile à l'égard des pauvres.
Cette question de l'intervention, de l'aide et de la solidarité, c'est ce pourquoi vous êtes invité aujourd'hui en tant que parrain des lauréats de l'édition 2018 des lauriers Grand Ouest de la Fondation de France, qui récompense l'innovation, l'exemplarité des actions qui viennent en aide aux plus vulnérables. C'est une notion qui vous semble importante de récompenser ceux qui agissent dans la solidarité et contre les inégalités ?
Évidemment, quand les inégalités dans une société se développent, c'est la société tout entière qui est menacée. Et c'est la raison pour laquelle la solidarité peut être un moyen de compenser ces inégalités. Il faut effectivement renforcer les liens qui attachent les individus entre eux et à la société. Et c'est pour ça que je développe cette notion d'attachement social dans mes travaux. J'essaye de renforcer cette théorie de l'attachement social à partir d'une analyse des différents types de liens qui attachent les individus les uns et aux autres et à la société. Et donc, l'énergie qui se déploie dans le monde associatif et les inventions, les innovations qui sont faites pour justement améliorer les formes de solidarité sont à encourager parce qu'elles montrent qu'il reste encore des forces vives dans la société française, notamment dans le Grand Ouest. Il faut souligner que dans le Grand Ouest, il y a une vitalité associative très très forte et on le voyait déjà à l'époque de toutes les actions d'insertion qui étaient menées. Il y avait dans le Grand Ouest des expériences souvent très innovantes dans ce domaine. Donc il faut les encourager et continuer à les encourager et rechercher par là même des solutions novatrices aux difficultés que l'on rencontre justement face à la pauvreté, face aux inégalités, face à une société qui se fragmente de plus en plus, dans une société où il y a une tentation des uns de faire sécession, de se protéger à l'intérieur d'un entre-soi. C'est la raison pour laquelle j'ai étudié notamment cette question des riches, du rapport des riches à la pauvreté, des riches vivant dans des quartiers ségrégés. Et donc de voir que justement il y a là un risque, une menace pour la société tout entière lorsque les individus ne se font plus confiance les uns les autres, ne vont plus les uns vers les autres, mais cherchent à satisfaire avant tout leurs intérêts particuliers. Et c'est pour ça que des opérations de solidarité menées dans un esprit associatif sont absolument vitales pour justement la cohésion, pour le lien, et c'est pour ça, justement, qu'il faut absolument les valoriser.
Parmi ces innovations, ces ambitions des associations, qu'est-ce que vous retenez, par exemple, qui vous semble vraiment utile à la société aujourd'hui ?
Alors, je ne pourrais pas simplement dire qu'il y a une seule action. Il y a une multiplicité d'actions qui font jouer, si vous voulez, les liens les uns avec les autres. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que c'est... Le succès, c'est généralement quand on associe des exigences qui sont liées, par exemple, à ce lien associatif, avec, par exemple, des intérêts qui sont de reconstituer la sphère citoyenne, de revaloriser les citoyens, d'intensifier, de permettre des échanges dans la sphère publique, de défendre les lieux, justement, de rencontre entre les différentes couches sociales et, en particulier, de défendre la position des plus défavorisés dans cet espace public. Et cela appelle, finalement, une conception importante de cette morale associative, mais aussi ça fait appel à une conception citoyenne, à une conception civique. Et c'est la rencontre de ces morales à la fois associatives qui font travailler la société civile sur elle-même et cette morale civique qui intègre la notion de citoyenneté et qui implique une certaine égalité entre les individus dans une société donnée, en tout cas en termes de droit et de reconnaissance. Et c'est tout ce travail-là que l'on doit valoriser dans le champ du social aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de soutenir les initiatives qui ont été lancées par la Fondation de France.
La notion que la Fondation de France cherche à faire prédominer, c'est celle de l'altruisme. Qu'en est-il de cette notion aujourd'hui en France ? Est-ce qu'elle est plutôt en déclin ou au contraire, est-ce qu'elle est en progrès ?
L'altruisme, oui, bien sûr. Je dirais que on pourrait mettre en avant effectivement la compassion. La compassion est nécessaire lorsque l'on pense le social et lorsque l'on veut justement que le monde soit un monde plus humain, où chacun y trouve sa place. Mais la compassion peut être aussi, si on n'y prend pas, si on n'y fait pas suffisamment attention, un risque en soi, parce qu'on pourrait se contenter en quelque sorte de la compassion, de ce regard compassionnel, de donner aux plus pauvres sans véritablement changer les conditions dans lesquelles, qui expliquent que les pauvres restent pauvres ou n'ont pas d'opportunité justement pour changer, pour améliorer leur situation. Donc un regard compassionnel est nécessaire, mais il doit conduire à des actions qui vont au-delà de ce mouvement qui implique la charité. Il faut effectivement que ça se traduise par des opérations de justice sociale et cela doit se traduire aussi parfois par des luttes pour une amélioration de la qualité des services, pour une amélioration des possibilités d'intégration de tous les individus, des possibilités d'attachement des individus les uns vis-à-vis des autres et aussi à la société dans son ensemble. Donc la compassion, c'est une première étape pour une société plus juste et plus intégrante et plus humaine aussi. Il ne faut pas dire que c'est inutile. Il y a certains qui opposent la justice et la charité. Moi, je ne les oppose pas, mais je considère que la compassion, c'est une première étape. Il faut la dépasser. Et donc l'altruisme, c'est ça. C'est d'aller vers la compassion et en même temps d'aller vers un horizon de justice sociale.
Vous en avez parlé tout à l'heure, les questions d'inégalité sont grandement influencées par les décisions politiques. Certaines personnalités politiques évoquent régulièrement les notions en disant les plus riches, les plus pauvres. Outre la politique actuelle, y a-t-il une réelle prise de conscience face aux inégalités de conditions, notamment en France ?
Je dirais que quand on interroge notamment les personnes que nous avons rencontrées dans les quartiers les plus riches de trois grandes métropoles, dans notre livre « Ce que les riches pensent des pauvres », nous avons étudié justement ces représentations que peuvent avoir les riches, ce que les riches pensent des pauvres. Et ce qui apparaît véritablement, c'est que les plus riches ont tendance parfois à justifier leurs privilèges et en même temps à justifier les inégalités et justifier la pauvreté. Alors cela passe par des idées qui justement conduisent parfois à considérer qu'il n'y a pas d'inégalité de conditions, que les chances sont plus ou moins égales. Et qu'il y aurait même peut-être des inégalités qui relèveraient de la nature des choses et que ce n'est pas finalement à la société de se remettre en question. On constate dans les discours une sorte de naturalisation de la pauvreté et des inégalités. Mais il y a aussi une autre façon d'interpréter pour les plus riches parfois les inégalités et de justifier par là les privilèges, c'est de considérer que ceux qui sont riches ne le sont que par leur mérite. Et on le voit très nettement, cette notion de mérite épouse aussi cette idéologie, ou en tout cas s'inscrit dans cette idéologie néolibérale qui met l'accent sur la responsabilité individuelle. Chacun est responsable de son destin, ce qui veut dire parfois de nier les conditions sociales et les inégalités. Alors, il ne s'agit pas de remettre en question la notion de mérite. Et bien sûr qu'on peut la prendre en compte et en tenir compte. Mais en même temps, on voit très bien que dans le discours, les riches eux-mêmes, quand ils abordent cette question, ont tendance à considérer que leur privilège ne vient que de leur mérite. Et ils ont tendance à ignorer les conditions extrêmement favorables dont ils ont pu pour la plupart bénéficier, conditions familiales, conditions de voisinage dans leur quartier, accès à la culture, accès au bien-être en général. Donc ils ne se rendent même pas compte de ce qui peut justement avoir fait la différence entre leur situation et celle des plus défavorisés. Et cela conduit d'une certaine manière, vous voyez, dans leur attitude, en insistant sur ce mécanisme, pour certains en tout cas, de la naturalisation des pauvres, pour l'autre, pour d'autres, sur le mérite, conduit parfois à un processus que l'on a appelé un processus de neutralisation de la compassion. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas besoin d'être dans un regard altruiste, compassionnel, d'œuvrer pour les inégalités, parce que finalement, ce qui se passe dans la société, c'est la traduction finalement d'un ordre juste. Si on a réussi, c'est parce que l'on a beaucoup plus de mérite que les autres. Et donc c'est un dévoiement total de la notion de mérite, parce qu'elle oublie, elle fait l'impasse sur justement les conditions sociales et les grandes inégalités qui peuvent exister entre les différentes couches sociales.
Pour finir, je voulais vous poser une question sur ce que vous avez écrit, ce que les riches pensent des pauvres, avec Bruno Cousin, Camilla Giorgetti et Jules Naudet, qui est le résultat d'une étude menée à Paris, à Sao Paulo et à Delhi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la démarche initiale de l'enquête? Pourquoi ce questionnement et pourquoi le choix de ces trois villes en particulier?
Alors, on a choisi de travailler sur cette question parce qu'on se rendait compte que cette question avait été traitée par des historiens, notamment par Louis Chevalier, notamment en référence à la première moitié du 19e siècle. On s'était vraiment posé la question dans le livre notamment de Louis Chevalier, Classe laborieuse et classe dangereuse, comment les riches, à un moment donné, avaient essayé de faire sécession, avaient essayé de repousser le plus loin possible les pauvres qu'ils considéraient comme dangereux et éprouvaient à leur égard une très forte répulsion physique, liée en particulier aussi à des dangers de contamination. Il y avait des épidémies à l'époque et donc on a voulu reprendre un peu cette thématique de la mise à distance des pauvres, de la discrimination des pauvres, du refoulement des pauvres à la périphérie, pour essayer de voir si aujourd'hui encore on en trouve des éléments tangibles dans les métropoles qui sont toutes des métropoles où la ségrégation spatiale ne cesse de s'aggraver. Et là, on le voit, il y a des quartiers qui deviennent de plus en plus riches. Il y a une concentration telle de la richesse dans certains quartiers de ces métropoles qui aggrave le mécanisme de la ségrégation spatiale. Et donc, il semblait important d'essayer de voir à quelle représentation était associé ce processus de ségrégation sociale intense. Et c'est la raison pour laquelle donc on a fait une enquête en allant interviewer des riches vivant dans ces quartiers les plus exclusifs, les plus riches de ces trois grandes métropoles. On a recueilli au total 240 entretiens approfondis réalisés à domicile, donc 80 dans chacune des métropoles. On a fait un travail dans 4 différents types de quartiers, donc au total, donc un beau corpus, si vous voulez, qui nous a pris beaucoup de temps à constituer, évidemment. Et c'est ce travail-là qui nous a permis d'analyser ce qui aujourd'hui renvoie à une fragmentation sociale très très forte qui comporte trois dimensions qui renvoie d'ailleurs à différents chapitres de notre ouvrage. La constitution d'une frontière morale, on produit un ordre moral au sens où on considère, en vivant dans un quartier particulièrement exclusif, que ceux qui vivent là sont supérieurs d'un point de vue moral aux autres couches de la population, et on se distingue, on cherche à se distinguer par justement une frontière qui est à la fois symbolique mais qui renvoie à cette conception morale qui est que ce qui se joue entre les gens est supérieur en termes de valeur morale que ce que l'on peut voir dans les autres couches de la population. Deuxièmement, on vérifie aussi dans cette enquête, avec bien sûr des variations selon les quartiers et selon les métropoles, avec des intensités variables, mais un processus qu'on confirme de répulsion physique à l'égard des pauvres. Les pauvres sont dérangeants, les pauvres, il faut s'en affranchir, s'affranchir de leur présence, notamment parce qu'ils renvoient à la saleté, à un manque d'hygiène, à des comportements nuisibles, éventuellement nuisibles pour l'ordre public. Ils sont dangereux, ils vivent dans des quartiers qui restent menaçants, et il faut donc se préserver du danger qu'ils représentent. Donc ça, cette menace, on la retrouve très fortement dans cette enquête, et on retrouve aussi dans cette enquête tout ce processus de neutralisation de la compassion dont je vous ai parlé, c'est-à-dire une tendance à considérer que il n'y a pas lieu de s'émouvoir de la pauvreté des plus pauvres, que l'on peut justement justifier les inégalités par ces processus dont je vous ai parlé, et que tout cela finalement nous conduit à, en mettant tous ces éléments les uns avec les autres, montre qu'il y a dans la société française, mais aussi dans les sociétés indiennes et brésiliennes, un processus qui marque finalement la discrimination et la stigmatisation des plus défavorisés, avec une volonté donc de ne plus faire société avec ces couches-là, en raison donc de tout ce que l'on juge inappropriés dans leur comportement, et en fonction donc du risque qu'elles sont censées entraîner pour la société tout entière, et en particulier pour les couches les plus riches. Donc c'est cette conception-là que les riches ont intégrée et qu'ils ont pu justement mettre en avant dans les entretiens que nous avons recueillis. Alors, ces résultats, si vous voulez, c'est en quelque sorte une loupe, comme une loupe grossissante de ce qui se joue dans la société tout entière. Et c'est la raison pour laquelle ce livre nous conduit finalement à analyser aussi la solidarité et les conditions de la solidarité dans une société comme la société française, la société brésilienne ou la société indienne, et de voir qu'il y a finalement des efforts à faire si l'on veut maintenir les conditions d'une solidarité entre les différentes couches de la population. Si on ne le fait pas, on voit ce que peut représenter une société fragmentée où les espaces de rencontre n'existent plus, où chacun reste dans son île, dans son entre-soi, et ne communique plus avec le reste de la société. Et donc c'est finalement en miroir ce type de société qui est une menace justement pour nous tous. Et la lecture de cet ouvrage doit nous permettre justement peut-être de réfléchir sur la nécessité de renforcer les mécanismes de solidarité dans une société donnée comme la nôtre.